Nous voulons continuer aujourd'hui nos réflexions sur la division du monde chrétien. Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons été amenés à poser ces questions. Doit-on abandonner tout espoir de comprendre les choses de la même manière? Au nom de l'unité, doit-on fermer les yeux sur nos divergences? Doit-on se résoudre à justifier la division comme une chose voulue de Dieu? Avant de répondre à ces questions, je crois qu'il serait utile d'examiner brièvement les causes profondes de l'émiettement religieux dont nous souffrons aujourd'hui. Il est évident que Dieu n'a pas voulu que les choses en arrivent là. La division est un mal. Elle est une œuvre du diable. C'est l'homme qui est responsable et non Dieu. Je crois sincèrement que Dieu nous a donné les éléments nécessaires et suffisants pour que nous puissions être unis, car dans sa prière, le Christ n'a pas demandé l'impossible. Dans d'autres domaines, il y a des vérités immuables. 2 et 2 ont toujours fait 4. 2 et 2 n'a jamais été égal à 7 ni à 9. De même, la terre a toujours été ronde, même si certains s'obstinent à la croire plate. Dans le domaine de la religion, je crois aussi qu'il y a un corps de vérité et de doctrine qui peut forger notre unité à condition que nous le gardions tel qu'il nous a été transmis, intact et complet. À cet égard, l'apôtre Paul avait écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Autrement, vous auriez cru en vain. Si l'apôtre Paul revenait parmi nous, il trouverait dans le christianisme des doctrines et des croyances qui lui sont totalement étrangères et des millions de gens qui les professent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas contentés du message simple et clair du Christ et de ses apôtres, tel qu'il a été préservé dans le Nouveau Testament. Ils lui ont juxtaposé les commentaires de l'Église accumulés au cours des siècles, ce que l'on appelle la tradition. D'autres se sont laissés guider par leur intelligence, rejetant tout ce qui, dans les Écritures, répugnait à leur raison. D'autres encore ont essayé de figer dans un credo ou une confession de foi ce qu'ils considéraient comme l'essentiel de la révélation. Évidemment, ces grandes catégories se subdivisent en multiples nuances. L'anomalie de ces positions est évidente. La tradition, par exemple, n'a jamais pu constituer un fondement pour l'unité. Elle est changeante, souvent en conflit avec elle-même et, ce qui est plus grave, en conflit avec les Écritures. Comme elle prend dans la pratique la place que devraient occuper les Écritures, ceux qui s'en réclament méritent cette réprimande du Christ « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes ». Quant à la raison humaine, dans son orgueil, elle n'entend pas la parole du Créateur révélée aux prophètes « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. En ce qui concerne les confessions de foi diverses qu'ont rédigées de nombreuses églises, elles contribuent aussi à la division. Elles sont dans la pratique la constitution de ces églises et revêtent plus d'importance que la Bible elle-même, comme si elles étaient, comme elles, inspirées et infaillibles. D'ailleurs, si une confession de foi ou un credo contient plus que le Nouveau Testament, il en contient trop. Si un credo contient moins que le Nouveau Testament, il n'en contient pas assez. Et s'il en contient autant que le Nouveau Testament, il est absolument superflu. C'est la Bible qui doit être notre guide suprême en matière de religion. Elle doit être notre seul credo, notre seule mesure, notre seul critère. C'est à cette condition-là que nous pourrons un jour accéder à cette unité pour laquelle le Christ a prié. Du moins, c'est la première et indispensable étape dans cette direction. En second lieu, les croyants doivent renoncer à quelque nom de parti que ce soit. S'ils se réclament du Christ, qu'ils portent son nom, qu'ils s'appellent chrétiens, tout court. Troisièmement, ils doivent avoir le courage d'accepter le seul baptême que le Christ a prescrit aux croyants pour le pardon de leurs péchés. « Celui qui croira, avait dit Jésus, et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Les croyants doivent enfin retrouver le culte des premiers chrétiens, tel qu'il se trouve décrit dans le Nouveau Testament. Nous venons d'évoquer dans les grandes lignes la cause profonde de la division religieuse, à savoir le fait que nous n'invoquons pas tous la même autorité en matière de religion et que dans cette situation, il est inévitable que nous soyons divisés. Mais ce qui me semble particulièrement pénible à supporter, c'est la division parmi ceux qui se réclament de la Bible. La Bible serait-elle à la base de cette division, dans le sens qu'elle la provoquerait, parce qu'il n'est pas possible de la comprendre tous de la même manière? Certes, non. Mais nous reconnaissons là encore l'œuvre de l'adversaire qui cherche à saper toute entreprise bonne et juste. La division se situe essentiellement au niveau de la doctrine. Sur ce point, il est réconfortant de constater que des dialogues s'engagent pour étudier à la lumière des Écritures ce qui doit être laissé ou modifié ou adopté en vue de l'unité de tous ceux qui ont choisi la Bible comme règle suprême et définitive. Tant que les hommes souffriront de la division, il y aura de l'espoir, car ils chercheront à ôter le mal. Hélas, une attitude aussi pernicieuse que séduisante s'est développée. Nous l'avons déjà dénoncée. Elle tente à laisser de côté l'élément doctrine pour tout miser sur la sincérité. Qu'importe la doctrine que vous professez, pourvu que vous soyez sincère et que vous croyez au Christ. Si c'est la doctrine qui nous divise, écartons-la de nos préoccupations. Que chacun adhère à la doctrine qui lui convient le mieux et qu'il apporte ce qu'il a de meilleur à la cause commune. Dans ce genre d'arrangement, celui qui insiste trop sur des points doctrinaux est considéré comme un sectaire, un doctrinaire et un dangereux perturbateur de la paix retrouvée. Pourtant, si nous lisons la Bible, nous y rencontrons tout un corps de doctrines proposées à notre foi et à notre vie. Dès le premier verset de la Bible, une vérité, une doctrine est déclarée. Écoutez Jésus qui parle à la femme samaritaine, ou l'apôtre Pierre s'adressant aux Juifs à Jérusalem, ou l'apôtre Paul s'adressant aux philosophes d'Athènes. La vie est présentée comme devant être fondée sur la doctrine, sur la vraie doctrine, et le salut dépend de notre soumission à cette doctrine. Mais si nous décidons de fermer les yeux sur la doctrine, de ne jamais en discuter et de faire de la sincérité virtuellement le seul critère de la religion chrétienne, il ne reste plus de l'Évangile qu'un message fade, dilué, ne présentant plus que de vagues généralités, une contrefaçon, une caricature. Je viens d'assister ces jours-ci à une campagne d'évangélisation organisée par plusieurs groupes dont la conception de l'unité est celle que je viens d'expliquer. L'évangéliste sur l'estrade, vers la fin de son exposé, exhorta l'auditoire à se tourner vers le Christ, seul espoir du monde. C'est là le but de toute prédication de l'Évangile. Pour appuyer ses arguments, il référa l'auditoire au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, qui raconte la conversion des premiers chrétiens. Il rappela que l'apôtre Pierre avait prouvé aux Juifs que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient, et comment la foule fut vivement touchée au point de poser cette question importante entre toutes, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» L'évangéliste insista beaucoup sur la gravité et l'importance de cette question. « Et que répondit l'apôtre Pierre ?» demanda l'évangéliste à l'auditoire. Et sans ouvrir sa Bible, il clama dans le micro « Repentez-vous et vous recevrez. Repentez-vous et vous recevrez. » Comme si c'était là la réponse que l'apôtre Pierre avait donnée. Il répéta cette même phrase plusieurs fois encore. Finalement, il signala qu'à la sortie, il serait distribué un formulaire de sorte que si quelqu'un désirait concrétiser sa conversion à Christ, il lui suffirait de signer son nom sur le formulaire après l'avoir dûment rempli. Concrétiser une conversion à Christ en remplissant un formulaire. J'étais atterré. Comment cet homme pouvait-il prêcher un évangile pareil et tordre l'Écriture de cette manière? Car vous le savez bien, à la question des Juifs, Pierre répondit clairement « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Mais pour cet évangéliste prisonnier des principes de son organisation, citer ce verset-là, tel qu'il figure dans l'Écriture, donner à cette question toujours actuelle la même réponse que l'apôtre Pierre, aurait signifié soulever un point de doctrine que tout le monde n'accepte pas. Il était plus prudent de l'écarter et de changer le verset d'une manière qui serait plus apte à plaire. Il est plus facile de faire remplir un formulaire que de dire comme Pierre, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Qu'importe si toutes les conversions rapportées dans le Nouveau Testament démontrent la nécessité du baptême, c'est une doctrine qui risque de diviser, alors passons-la sous silence. Mes chers amis, si mon ton est amer, c'est que je suis sorti de cette réunion-là profondément attristé et révolté, affermi aussi dans ma conviction que jamais je ne voudrais d'une unité fondée sur de telles bases. Elle a pourtant de nombreux promoteurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre que sa parole, avec ses exigences, ne correspond pas toujours aux penchants de notre nature, ni aux directives de notre raison, et que si nous voulons lui être agréables et voir la lumière, il faut nous laisser bousculer par lui dans notre façon de concevoir les choses. Que ceux qui s'appuient sur sa parole pour diriger leur vie demeurent fermes et inébranlables dans la foi. Puissent-ils respecter la parole jusqu'au bout? Ceux-là sont plus nombreux que nous ne le pensons. Ce sont les vrais artisans de l'unité véritable, celle de l'esprit par le lien de la paix.